Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche.
Les débats de Pierre de Touche.
Bonjour à tous, bienvenue dans Pierre de Touche, 136e édition de Pierre de Touche, en ce dimanche 28 avril. Nous allons aujourd'hui débattre de la relation de l'homme à la nature, qu'il s'agisse de la montée globale des températures, de la désertification, de l'acidité des océans ou encore des inondations à répétition. On ne peut aujourd'hui faire l'impasse sur les enjeux climatiques, locaux ou globaux. Certains parlent même de crise climatique et n'hésitent pas à la relier à celle de nos systèmes sociaux et productifs de manière générale. Alors, dans cette émission, nous souhaitons, comme souvent, prendre un peu de hauteur et questionner ces enjeux, en commençant par ce que signifie à la fois techniquement, politiquement, philosophiquement, voire spirituellement, la prise en compte de notre empreinte écologique. Alors, pour débattre, ce dimanche matin, nous avons invité Michel Magny, directeur de recherche émérite au CNRS, au sein du laboratoire Chrono-Environnement à Besançon, spécialiste des changements climatiques et environnementaux et de leurs interactions avec l'histoire des sociétés. Michel Magny, vous êtes aussi l'auteur de l'Anthropocène aux presses universitaires de France. Bonjour Michel Magny.
Bonjour.
Et Antonio Duarte, urbaniste et président du think tank Planète Verte. Bonjour Antonio.
Bonjour.
Alors pour commencer, on va aborder la question des limites planétaires et du nouveau rapport à la nature. En quoi ces limites planétaires que nous voyons actuellement constituent-elles des limites pour l'humain, Michel Magny ?
Ces limites planétaires ont été définies dans le début des années 2000, hein, il y a relativement peu de temps, une dizaine d'années. Elles ont été définies par un groupe international de scientifiques qui est animé par l'Américain Will Stephen et le Suédois Johan Rockström. Et l'idée, c'était de faire une sorte de bilan d'état de situation de la planète Terre face aux impacts anthropiques. Et plutôt que d'alerter sans chiffres précis sur ce qui était en train de se passer, l'idée donc était de quantifier, de proposer un bilan quantitatif de la situation de la planète Terre en fixant justement des seuils à ne pas dépasser et aussi des seuils critiques où les choses risquaient de basculer. Alors, ces scientifiques ont défini trois zones dans ce bilan, dans trois zones sur la trajectoire que nous suivions. Une première zone qui est la zone dans laquelle les écosystèmes et les sociétés seraient en sécurité. Une deuxième zone qui serait le début d'une période d'incertitude. Et enfin, une troisième zone qui pourrait correspondre à une période où à la fois écosystème et société seraient dans une position d'exposition au danger. Alors, ce qu'ils appellent limite planétaire, c'est le passage de la zone de sécurité à la zone d'incertitude. Et puis, au milieu de cette zone d'incertitude, il y a un seuil critique qui correspondrait à un basculement du fonctionnement des écosystèmes d'un état satisfaisant à un état complètement différent de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Alors, ces limites planétaires sont au nombre de 9, c'est-à-dire qu'ils ont distingué 9 indicateurs planétaires pour essayer de dresser ce bilan général de la planète, avec en particulier la première limite qui est celle concernant le climat, la deuxième limite qui concerne la biodiversité, La troisième limite, c'est celle qui concerne l'anthropisation des écosystèmes terrestres, c'est-à-dire que c'est l'appropriation par l'homme des surfaces disponibles sur les terres émergées. Ensuite, il y a la consommation d'eau douce. Une autre limite est celle qui concerne les flux biogéochimiques, c'est-à-dire la dispersion dans les écosystèmes du phosphore et de l'azote. Ensuite, l'acidification des eaux océaniques et trois autres limites pour finir, les aérosols atmosphériques, l'ozone stratosphérique et enfin la pollution. Voilà. Donc, par rapport à ces 9 limites planétaires, aujourd'hui, l'état des lieux fait que nous avons déjà dépassé 6 limites planétaires. Il y a une 7e qui est près d'être dépassée. Alors, on pourra revenir, comme vous le voulez, sur chacune de ces limites pour donner l'état où nous en sommes pour chacun de ces indicateurs.
On va y revenir effectivement après. Ces limites planétaires constituent-elles des limites pour notre système de production de richesses, Antonio Duarte ?
Oui, naturellement. Je pense qu'on y reviendra parce que c'est la nature est le troisième pilier, si je puis dire, du capitalisme avec le capital et le travail tel qu'il a été redéfini par Marx. Et c'est bien tout le problème, c'est que les ressources de la nature ne sont pas inépuisables. Et donc cette prise de conscience plus récente nous amène à reconsidérer aujourd'hui nos modèles économiques, nos modèles philosophiques. Mais on trouve encore dans notre société, si je puis dire, les deux courants de pensée philosophiques qu'il faut avoir en tête. Le premier, qui est le modèle dominant encore aujourd'hui, nous vient à la fois de la religion, notamment judéo-chrétienne, du livre de la Genèse, qui indique que l'homme, effectivement, doit cultiver la nature et la terre, qui lui est confiée par Dieu. Et donc, il y a ce rapport de domination de l'homme sur son environnement, qui a été prolongé évidemment donc par l'humanisme à la Renaissance, notamment Descartes qui a accentué cela, comme le décrit très bien Martin Heidegger plus récemment, qui était en rupture avec cet humanisme et qui montrait les limites de la technique, finissait par dominer l'espèce humaine et que l'espèce humaine ne le maîtrisait pas. Ça, c'est le premier courant de pensée qui sépare donc l'homme de la nature. Il y a une supériorité philosophique de l'homme sur les animaux, sur le vivant de manière générale, et une forme d'illusion sur le plan scientifique et sur le plan philosophique d'autonomie de l'homme. L'homme serait indépendant de la nature, ce qui évidemment n'est pas le cas, puisque on respire de l'air, on boit de l'eau, on est totalement interdépendant, et c'est là où les philosophies antiques rejoignent aujourd'hui la science contemporaine, sur le deuxième courant de pensée, qu'on appelait dans l'Antiquité, dans la philosophie présocratique, notamment celle de Pythagore, les philosophes atomistes, parce que c'était à la fois un philosophe, un scientifique, un mathématicien, donc il avait une vision globale du cosmos, et donc ce qu'on appelle aujourd'hui une vision holistique, une vision globale, qu'on retrouve aujourd'hui dans le milieu scientifique, même si le milieu scientifique est fait de spécialistes et qu'il faut réunir le GIEC pour avoir un consensus scientifique sur l'ensemble des points qu'on vient d'évoquer. Ce deuxième courant de pensée est encore très minoritaire. Il y a une prise de conscience, notamment avec une vulgate des scientifiques comme François Genem ou d'autres représentants en France, Valérie Masson, qui alertent les politiques sur effectivement l'urgence d'agir et d'intervenir pour corriger cela. On y reviendra peut-être sur à la fois l'économie politique et l'écologie politique, qui sont deux sujets majeurs, parfois décorrélés de l'analyse scientifique qu'on vient d'établir.
Alors Michel Magnier, les limites pour notre système de production de richesses, et puis après je voudrais qu'on revienne sur ces 6 voire 7 points déjà dépassés dans le classement que vous nous aviez établi tout à l'heure.
C'est-à-dire que les limites qui sont indiquées par ce groupe de scientifiques, il pourrait y en avoir d'autres. C'est d'ailleurs, certains ont proposé aussi d'ajouter d'autres limites planétaires. Donc d'autres indicateurs, en fait, elles s'opposent assez directement à l'idéologie économique dominante. Hein. C'est-à-dire que l'idéologie économique dominante, c'est celle de la croissance. Le système capitaliste hein, s'appuie sur une productivité, hein, on peut même dire un productivisme illimité, sans considérer qu'on est sur une planète qui, elle, a des dimensions tout à fait limitées, qui n'est pas extensible. Donc, il y a une première contradiction qui apparaît là, de toute évidence, entre ces limites planétaires telles qu'elles ont été définies par ce groupe de scientifiques et l'idéologie capitaliste, surtout dans sa formulation néolibérale. Mais on peut dire aussi que bien avant ce groupe de scientifiques qui a travaillé en particulier entre 2009 et 2015, hein, les articles scientifiques fondateurs de ces limites planétaires, on les retrouve dans la littérature scientifique à ce moment-là. Je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse de citer le club de Rome avec le rapport Meadows qui a été publié en 1972, c'est-à-dire qu'il y a exactement 52 ans, et qui a créé un véritable choc hein, dans les opinions publiques internationales à ce moment-là, parce que c'était la première fois que des scientifiques, surtout sur la base d'une approche économique, montraient que le système capitaliste basé sur la croissance n'était pas tenable sur une planète qui avait des dimensions limitées. Et le titre hein, du rapport Meadows, c'est « Les limites à la croissance ». C'était traduit en français par « halte à la croissance ». Voilà. Et je me souviens, au début des années 70, comment cette publication avait fait énormément de bruit, hein, avait suscité énormément de polémiques. C'est retombé plus ou moins dans l'oubli, jusqu'au moment où la crise climatique et d'autres crises écologiques s'aggravent, et qu'on reparle à nouveau des limites planétaires, et que ce groupe de scientifiques les explicite de façon très claire et très quantitative.
Alors, avant de parler de l'anthropocène directement, est-ce que vous pourriez nous faire un point sur les 9 étapes ?
Vous
disiez tout à l'heure que 6
voilà,
avaient limites avaient déjà été franchies et que la 7e était en passe d'être franchie.
Voilà.
Est-ce que vous pourriez nous faire un point là-dessus ?
En ce qui concerne le changement climatique, on a déjà dépassé la limite planétaire. Hein. Théoriquement, cette limite est placée à une teneur de l'atmosphère en gaz carbonique qui est de 350 ppmv, c'est-à-dire de parties pour million de volume. Et aujourd'hui, on est déjà à plus de 420. Hein. Donc, on est largement au-delà. En ce qui concerne la biosphère, la biodiversité, on a déjà dépassé la limite planétaire, en particulier en ce qui concerne la diversité génétique. Ensuite, pour ce qui concerne l'anthropisation des écosystèmes, les humains se sont accaparés aujourd'hui plus de 50% des terres émergées libres de glace. Et donc, dans cette appropriation, ils font une concurrence directe aux autres vivants. Et on a vu, par exemple, à quoi cela peut conduire, par exemple, avec la pandémie du Covid-19. Hein, c'est-à-dire qu'à mesure que les zones sauvages reculent, il y a une difficulté pour le sauvage à pouvoir se développer normalement. Les contacts avec les humains ou leurs animaux domestiques se font de plus en plus fréquents. Et à partir de ce moment-là, le passage de pathogènes du sauvage au monde des humains est largement favorisé. Ensuite, pour ce qui est de la consommation d'eau douce, c'est une limite qui a été quantifiée tout récemment. Je crois que l'article correspondant à cet indicateur a été publié il y a 2 ou 3 ans. Et il montre comment, en ce moment, les humains ont dépassé la limite planétaire pour ce qui est de leur consommation en eau douce. Et bon, aujourd'hui, on parle de plus en plus hein, de ces problèmes d'alimentation en eau. Pensez à ce qui est en train de se passer dans le département des Pyrénées-Orientales. Pensez à ce qui se passe aussi pour Barcelone, par exemple. Mais il y a beaucoup d'autres points sur la Terre. Vous avez des grandes villes qui dépendent pour leur approvisionnement en eau, au moins pendant une partie de l'année, de camions-citernes hein, qui viennent d'ailleurs. Ensuite, pour les grands flux biogéochimiques du phosphore et de l'azote, c'est tous les intrants agricoles qui sont déversés dans les écosystèmes. Et avec les phénomènes de ruissellement, ces intrants agricoles se déversent beaucoup plus largement et vont affecter les nappes phréatiques, vont affecter les rivières et par extension, on les retrouve aujourd'hui au large des estuaires des grands fleuves à l'échelle de la planète où ils sont à l'origine de ce que l'on appelait le développement de zones mortes. Ensuite, pour ce qui concerne l'acidification des eaux océaniques, on est tout près là de franchir la limite planétaire. Donc, on est tout près de passer d'une zone de sécurité à une zone d'incertitude. Et ce qu'il faut souligner à ce moment-là, c'est que le puits que représente l'océan pour absorber une partie de nos émissions de gaz à effet de serre va s'atténuer. Et donc, on va entrer dans un cercle vicieux, hein, puisque à ce moment-là, nos émissions, une large partie de nos émissions qui étaient absorbées par l'océan, ne le seront plus et donc vont se retrouver dans l'atmosphère. Les aérosols atmosphériques, vous avez sans doute entendu parler aussi de toutes ces particules fines qui sont dans l'atmosphère, qui la polluent, qui sont néfastes pour la santé des humains. Donc là, on n'a pas encore de quantification précise qui permette d'évaluer avec rigueur la situation. Mais on sait déjà que dans des zones comme le sud de l'Asie, en particulier l'Inde, ces aérosols atmosphériques d'origine humaine pourraient être à l'origine de changements néfastes, de changements de la circulation atmosphérique. Ensuite, on peut prendre l'ozone stratosphérique. On a tous entendu parler du trou d'ozone. Grâce au protocole de Montréal, les choses sont en train de se résorber, mais il faut dire qu'à ce sujet, on est toujours inquiet, en particulier d'émissions de produits toxiques qui ont été repérées au-dessus du continent asiatique et qui pourraient nuire à cette ozone stratosphérique qui protège tout le vivant, en particulier au niveau de l'ADN. S'il n'y avait pas cette ozone stratosphérique, on serait directement touché dans notre ADN. Et enfin, la pollution, où là, on a largement dépassé les limites planétaires. C'est un article qui est lui aussi paru il y a environ 2 ans et qui souligne comment à la fois on rejette des quantités très importantes de produits artificiels qui sont étrangers à la nature, qui sont d'origine strictement tropique, et que la nature n'arrive pas à résorber, et on est dans une incertitude complète sur l'impact réel qu'ils ont sur la santé des écosystèmes et des humains. Voilà donc à peu près le tour d'horizon que l'on peut établir aujourd'hui à propos de ces limites planétaires.
Alors voilà un constat qui est particulièrement édifiant, alors qu'on voit sans arrêt prospérer les climato-sceptiques et les conspirationnistes en tout genre. On va faire une courte pause avant d'avancer dans l'émission avec une chanson toute adaptée, « Si Madame Nature a les nerfs » de Louis Chédid.
Sur le plancher des vaches, dégueulasse. Le temps qu'il fait, les portes claquent, les volets tremblent, les tuiles dégringolent. On se croirait en novembre, volatile, quadrupède, fond le gros dos, immobile dans la pinette. Faut dire qu'au niveau météo, tout fout le camp depuis quelque temps. Des précipitations inédites, inondations historiques pour la fonction publique, EDF, chemin de fer, France Télécom, R Inter, c'est l'enfer. Si Madame Nature est en pétard, c'est peut-être parce qu'on lui en a trop fait voir, qu'on a tendance à oublier qu'elle a une très grosse personnalité. Si Madame Nature a les nerfs, qu'elle remue ciel et terre, c'est peut-être qu'elle n'apprécie pas la manière dont on la considère. Si Madame Nature pète les plombs, c'est qu'elle a ses raisons. Faut dire tous ces cargos qui dégazent, ces forêts qu'on ratiboise. Elle doit trouver sa nase. C'est vrai qu'on la traite comme des rustres, que depuis des lustres, ça fait une sacrée ardoise. Détergent, hydrocarbures, déchets nucléaires. C'est sûr, ça peut déplaire si Madame Nature est en pétard. C'est peut-être parce qu'on lui en a trop fait voir qu'on a tendance à oublier qu'elle a une très grosse personnalité. Si Madame Nature a les nerfs, qu'elle remue ciel et terre, c'est peut-être qu'elle n'apprécie pas la manière dont on la considère. Si Madame Nature pète les plombs, c'est qu'elle a ses raisons. C'est qu'elle a ses raisons. C'est qu'elle a ses raisons.
Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France.
Les débats de Pierre de Touche.
Nature et société, quels enjeux? Nous en débattons ce dimanche matin dans Pierre de Touche, l'émission de la Grande Loge Mixte de France, produite et réalisée par Radio Delta. Nous accueillons Michel Magny, directeur de recherche émérite au CNRS à l'Université de Franche-Comté, spécialiste des changements climatiques et environnementaux et de leurs interactions avec l'histoire des sociétés. Et Antonio Duarte, qui est urbaniste et président du think tank Planète Verte. On va aborder maintenant la question de l'anthropocène et du nouveau rapport au progrès. Mais j'ai une question à vous poser, Michel Magny, vous qui êtes l'auteur au PUF de l'ouvrage L'anthropocène. Qu'est-ce que l'anthropocène ?
Alors, l'anthropocène, c'est un mot qui a été proposé pour la première fois par Paul Crutzen en 2000 à l'occasion d'un colloque international qui se tenait en Amérique latine, et il a proposé d'utiliser ce terme pour indiquer que, selon lui, nous étions entrés désormais dans une nouvelle époque géologique qui serait caractérisée par le fait que maintenant, la trajectoire des écosystèmes n'était plus dirigée ou déterminée par la variabilité de facteurs naturels, mais bien par les impacts des activités humaines sur ces écosystèmes. Voilà. Donc anthropos, hein, ça veut dire l'homme, et scène, c'est le suffixe qu'utilisent les géologues pour désigner des époques géologiques. Donc l'anthropocène, si vous voulez, c'est l'époque géologique qui est caractérisée par un impact majeur des sociétés humaines sur les écosystèmes.
Alors, est-ce qu'on peut encore parler de progrès en matière technologique si on considère que celui-ci, ce progrès technologique, a jusqu'à présent reposé essentiellement sur un usage massif de ressources naturelles? Est-ce que scientifiquement, on peut encore dire qu'il s'agit d'un progrès?
C'est-à-dire que tout dépend de la définition que l'on donne au mot progrès. Bon, si on revient à Paul Crutzen, il faisait coïncider le début de l'anthropocène avec les débuts de la civilisation industrielle. Donc on voit bien toute l'évolution technologique qu'il y a derrière ce passage d'une civilisation où la subsistance est basée sur l'agriculture et l'élevage à une civilisation qui repose désormais sur un productivisme industriel avec le développement d'un nouveau mode de vie. Pour moi, le passage à l'anthropocène, si on peut dire, nous invite non pas à remettre en cause le progrès technologique, mais en fait à nous interroger, à nous questionner sur quel est le sens de cette nouvelle civilisation qui s'est développée et qu'est-ce que l'on met derrière le mot progrès. Est-ce que derrière ce mot progrès, il faut toujours voir de la technologie, ou alors, au contraire, est-ce qu'on ne devrait pas s'interroger sur qu'est-ce qu'il y a en train d'advenir à la fois aux écosystèmes, qui sont notre cadre de vie, il n'y a pas de distinction, hein. Antonio, il faisait allusion tout à l'heure, il n'y a pas de distinction à faire entre nature et culture. Nous sommes des animaux humains plongés dans des écosystèmes, de là dépend notre survie. Et donc, il n'y a pas d'opposition à établir. Et ce sur quoi il faut s'interroger maintenant, c'est sur la trajectoire que nous sommes en train de suivre et qu'il faudrait changer. Voilà, donc, qu'est-ce que nous devrions appeler progrès ? Quels seraient pour nous les horizons nouveaux qu'il faudrait définir pour une nouvelle civilisation qui permettrait aux écosystèmes de fonctionner normalement et donc aux humains de survivre et aux sociétés humaines de vivre dans une forme de bien-être et de convivialité sociale. Voilà. Donc je dirais que ce passage à l'anthropocène, c'est une question qui nous est posée. Voilà.
Alors, Michel Magny vient de répondre à la fois avec un point de vue scientifique, mais en abordant la question philosophique. Antonio Duarte, d'un point de vue symbolique, on abordera également la question politique ensuite, pensez-vous que, eh bien, on peut encore parler de progrès actuellement avec cet usage massif des ressources naturelles et le constat édifiant dont Michel Magny nous a fait état tout à l'heure?
Le terme progrès peut effectivement être prêté à débat et n'est probablement plus le terme adéquat. Par rapport à l'anthropocène, je pense qu'on peut distinguer avant cela, j'irais, trois grandes périodes d'accélération de cette domination de l'homme sur la nature. Il ne faut pas oublier l'invention de l'agriculture il y a 12 000 ans qui a permis la sédentarisation, puis ensuite évidemment l'urbanisation et donc la maîtrise de l'agriculture. On est passé effectivement du chasseur-cueilleur à la sédentarité. Ça s'est accéléré considérablement, évidemment, avec la révolution industrielle dont il faisait allusion à l'instant, qui est vraiment le tournant majeur, qui est la naissance, qui coïncide avec la naissance de l'écologie politique, d'ailleurs, évidemment, avec la pollution, la labeur, effectivement, des ouvriers et cette prise de conscience populaire des effets néfastes de la révolution industrielle sur à la fois l'homme, mais aussi la nature. Ça s'est accéléré quand même après-guerre avec l'usage des engrais, des pesticides dans l'agriculture, qui a à la fois apporté des choses positives, puisque effectivement la productivité agricole a été multipliée par plus de 5, hein, et qui a permis de nourrir aussi l'humanité, qui est passée en 2 siècles de 2 milliards à 8 milliards d'êtres humains sur Terre. La question de la démographie est aussi un sujet de discussion et les projections de l'ONU parlent de 11 milliards d'êtres humains à l'horizon 2100. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et on parlait à l'instant de la croissance, du rapport du Club de Rome qui est vraiment fondateur, mais il a fallu 50 ans pour que le rapport du GIEC ne parle non pas de décroissance, parce que c'est une terminologie qui est aujourd'hui taboue, en tout cas à l'échelle du GIEC et des COP, on l'expliquera pourquoi sur l'écologie politique, mais simplement pour introduire le terme de sobriété, c'est-à-dire de croissance maîtrisée et décarbonée. Et ces dernières semaines, il y a un débat public, justement, qui conteste l'usage de ce terme qui est considéré comme politique par certains et non pas scientifique. Donc, on voit bien qu'on est sur un sujet brûlant et il faut bien avoir en tête, par rapport aux deux courants de pensée qu'on a évoqués tout à l'heure, que l'ensemble des travaux du GIEC, mais surtout des COP, c'est-à-dire des décisions politiques qui se passe sur la base effectivement des travaux scientifiques. La première COP, c'était sur l'appel de Rio en 92. C'était à peu près au même moment où Chirac disait « la planète brûle et on regarde ailleurs ». C'était une prise de conscience, mais il n'y avait pas encore de décision. Il y a eu ensuite le protocole de Kyoto en 97 avec des mécanismes, encore une fois, économiques et assez sobres sur les échanges de carbone, etc. Mais c'est surtout les accords de Paris qui sont très récents, c'est 2015. Donc, qui ont commencé à fixer des objectifs plus contraignants de réduction des gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, on voit bien que les États, ça n'est pas contraignant. Il n'y a pas des amendes, il n'y a pas d'obligations. Et donc, on voit bien que l'itinéraire des États est 2 fois inférieur à leurs engagements. Même si on commence, notamment en Europe, aux États-Unis, à diminuer depuis quelques années les émissions de gaz à effet de serre, et notamment depuis le Covid, qui est vraiment, sur le plan économique et sur le plan symbolique, un vrai tournant, parce qu'on a eu une prise de conscience, on a arrêté l'économie mondiale aux États-Unis, en Europe, en Chine, à cause d'une pandémie donc sanitaire. Et ça s'est apparenté, d'une certaine manière, à une forme d'économie de guerre, c'est-à-dire qu'on a arrêté l'économie pour prioriser, là en l'occurrence la santé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était pour privilégier la guerre, et on a transformé toute l'économie et mis tous les moyens de l'État pour, si je puis dire, atteindre cet objectif-là. Ce qui nous interpelle évidemment, c'est pourquoi on ne met pas les mêmes moyens d'économie de guerre, puisqu'on est en guerre contre le climat. Mais on n'est pas capable de le faire sur le climat depuis 50 ans qu'on en parle, depuis qu'il y a des candidats, depuis René Dumont en 1974, premier candidat au présidentiel écologiste, coïncide pratiquement avec le rapport de Rome. L'écologie politique représente 3% des élections présidentielles en France et dans la plupart des pays, un peu plus en Allemagne. Donc, elle ne s'est pas installée. Et donc, faut vraiment comprendre pourquoi. Mais la philosophie aujourd'hui des COP est assez limitative. Et elle rejoint évidemment, par ailleurs, la question fondamentale, mais sur laquelle aujourd'hui on n'a pas de réponse, de la gouvernance mondiale, l'ONU, qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale. Mais on voit bien que le Conseil de sécurité aujourd'hui ne fonctionne pas parce que un des États membres fait la guerre aux voisins et ne respecte pas les conventions internationales, et que il y a aujourd'hui aucun mécanisme de gouvernance, puisqu'on a une seule planète, mais il y a près de 200 pays et une coordination qui est encore très faible et surtout pas contraignante.
Chémanie.
Oui, on vient là d'évoquer, par exemple, la situation tout à fait nouvelle hein, dans laquelle nous nous trouvons, en particulier avec l'impuissance que l'on constate de plus en plus fortement des grands organismes internationaux, en particulier l'ONU. On pourrait parler d'autres organismes aussi. Je pense que c'est intéressant, c'est important de replacer tout ça dans une grande trajectoire de l'histoire des sociétés humaines. Il a été fait allusion hein, au développement de l'agriculture à partir il y a 12 000 ans. Ce qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que l'aventure humaine remonte à 7 millions d'années. Et pendant donc l'essentiel de son histoire, l'homme a été chasseur-cueilleur. Et c'est à partir de 12 000 ans que s'est développée l'agriculture, s'est développé l'élevage, et on assiste à ce moment-là à des relations entre les sociétés humaines et leur environnement qui changent complètement. Avant, c'est ce que l'on voit dans les fresques de Lascaux ou d'Altamira, par exemple, on voit des humains qui sont peu nombreux, qui sont en horizontalité avec leur environnement. Ils représentent leur mythe à partir d'animaux et à partir du néolithique, à partir du développement de l'agriculture et de l'élevage, en fait, on voit des sociétés qui changent complètement d'imaginaire avec une forme de verticalité. Les mythes d'origine horizontaux font place à des dieux et des déesses qui ont des aspects anthropomorphes. On voit que la domination de l'homme sur la nature s'accompagne d'une domination des humains entre eux. On voit des sociétés qui se hiérarchisent, qui se complexifient. On voit l'apparition des inégalités économiques. On voit le développement de l'esclavage. On voit aussi l'apparition d'un État autoritaire surplombant hein, entre les humains, les classes sociales du bas, inférieures, et une élite qui s'institue comme le lien, hein, l'interface entre les dieux qui vont assurer la prospérité et les classes inférieures. Donc on voit comment les rapports des humains, des sociétés humaines à leur environnement sont en quelque sorte le reflet de ce qui se passe aussi à l'intérieur même des sociétés. Et on peut suivre cette trajectoire-là jusqu'à la civilisation, au développement de la civilisation industrielle. Et à partir de là, ce qu'il faut avoir en ligne de compte, c'est comment avoir un autre type de relation avec les écosystèmes suppose pour les sociétés humaines d'avoir un autre mode de relation entre les humains eux-mêmes à l'intérieur de ces sociétés. Et cette double perspective qu'il ne faut jamais quitter de vue. Et donc, pour terminer avec ce qui concerne l'ONU, ce qui concerne le système économique actuel, eh bien évidemment, les blocages que l'on peut percevoir nous renvoient directement à un système. On ne peut pas imaginer d'avoir un autre rapport à notre environnement sans changer le mode de fonctionnement de nos sociétés et à l'échelle du système international tel qu'il s'est mis en place, en particulier depuis la domination européenne sur l'ensemble du monde.
Alors, c'est ce que je voudrais vous poser, Antonio Duarte. C'est pas assez contraignant. Est-ce un problème de volonté politique? Est-ce un problème de priorité? Est-ce un problème d'idée de progrès souhaitable?
Je crois qu'à ce niveau-là, on vient d'en parler, on est encore dans ce système néolibéral qui a accru son emprise sur le monde avec l'effondrement du communisme. Ça a été un point de blocage puisqu'il y avait jusque-là deux idéologies dominantes avec des discussions philosophiques, politiques, économiques. Mais avec l'effondrement de l'URSS, effectivement, il n'y a plus de communisme ou de néo-marxisme, même la Chine. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de modèle économique alternatif. La prise de conscience de la nécessité d'un changement, elle est là, mais on n'a pas de système alternatif, ça c'est la vérité. Et quand bien même il y a chez les investisseurs un début de finance durable, d'objectifs, d'impact social, d'impact environnemental, ça dépend beaucoup en réalité de l'éthique individuelle des entrepreneurs et des capitalistes et des héritiers qui aujourd'hui ont l'essentiel de la fortune mondiale, qui vont toujours chercher à valoriser davantage leur capital avec des taux d'intérêt plus élevés et donc sur lesquels leur éthique personnelle et l'éthique collective va être tout à fait discutable et ça on peut pas le contrôler. Donc tous les systèmes alternatifs qui existent, hein, ils sont assez nombreux, en dehors effectivement de cette école mainstream qui est plutôt d'écologistes réformistes, qui aujourd'hui est dominante et qui apporte des résultats, hein, on ne faut pas tout minorer. Monsieur Poujade était le premier ministre de l'écologie et Valéry Giscard d'Estaing, qui était à l'époque ministre de l'économie, il n'était pas encore président de la République, avait dit « mais c'est génial de créer un ministère de l'écologie, c'est un ministère qui ne va rien coûter au budget de l'État ». Et donc, il disait, c'était le ministère de la parole. Donc, il disait qu'il fallait faire des choses, mais en fait, il n'avait aucun budget pour le faire. Et en réalité, les décisions se passaient dans les autres ministères, à l'industrie, à l'agriculture, à l'énergie. Donc, dans les années 80, à l'époque, effectivement, du Grenelle de l'environnement, de Jean-Louis Borloo, Jacques Chirac, on a commencé à faire des politiques interministérielles et des plus grands ministères de l'écologie. Mais ça ne suffisait pas parce que les arbitrages se faisaient au-dessus, en particulier à Bercy, qui disait, ils sont bien sympathiques, ces écologistes, mais la priorité, c'est la croissance économique, c'est l'emploi, et l'écologie passera après. Le changement plus récent, ça a été l'introduction de la notion de planification écologique interministérielle faite par le Premier ministre en France, donc une plus grande cohérence. Et on commence à en mesurer l'impact, puisque effectivement, le premier quinquennat de Macron, on a divisé par deux le rythme de baisse des émissions de CO2 par rapport au quinquennat Hollande. Et le deuxième quinquennat, on continue de diviser par deux le rythme de baisse, même si ça reste encore insuffisant. Faudrait arriver aujourd'hui pour la France à une baisse de 5,5% des émissions de CO2 par an pour respecter les objectifs de l'accord de Paris. Sachant que par ailleurs, ils sont déjà quasiment atteints, les objectifs de l'accord de Paris. On est déjà quasiment à plus 1,5 degré de réchauffement climatique parce que avec tous ces changements-là qui se font sur des décennies, en réalité, le réchauffement, il est déjà là, même s'il n'est pas encore totalement perceptible. Il y a des changements dans la nature qui sont déjà trop engagés pour qu'on puisse revenir en arrière. Aujourd'hui, l'objectif, de manière réaliste, c'est de limiter le réchauffement climatique à plus de 2%. Mais on voit bien tous les jours, y compris en France. On le voit encore plus en Espagne, au Portugal et encore plus, évidemment, au Maghreb. L'Espagne, le Portugal, il y a des sécheresses colossales. Barcelone, il n'y a plus d'eau dans la ville. Donc, l'accélération des tempêtes, des grands incendies de forêt, la montée, évidemment, du niveau des océans qui va provoquer l'érosion des côtes en France, rien que 500 000 habitants vont devoir déménager parce que leur maison va être sous l'érosion côtière. Donc il y a, au-delà de ce qu'on appelle la transition écologique, il y a le chantier de l'adaptation de nos sociétés, de nos villes au réchauffement climatique, qui est un deuxième chantier dont on parle peu, mais qui est également essentiel.
Alors, je voudrais qu'on parle également des perspectives sociales et politiques, parce que là, vous nous avez dressé un tableau scientifique, Michel Magny, édifiant, Antonio Duarte, un tableau politique qui est guère positif. Et donc, quelles sont les perspectives sociales et politiques? Comment pouvons-nous encore nous projeter, Michel Magny?
Ouais, disons que, en tant que scientifique, ce que nous pouvons observer, hein, c'est la nécessité d'un changement de paradigme complet. C'est-à-dire que dans le monde ancien, dans le monde qui prévaut encore aujourd'hui, ce qui prédomine, ce sont les impératifs économiques. Et ces impératifs économiques sont retranscrits par les États qui les imposent aux sociétés et qui, pour finir, exploite en toute démesure les écosystèmes terrestres. Et en fait, à quoi nous devrions passer, c'est un monde nouveau où la priorité n'est plus celle d'une croissance, d'un productivisme économique tout craint, c'est celle de la préservation de la durabilité des écosystèmes terrestres. Ça, c'est la préservation de notre communauté biotique, c'est celle dont notre vie dépend. Ensuite, en tant qu'humain, la deuxième communauté à laquelle il faudrait songer et qu'il faudrait préserver, c'est la deuxième boussole que nous devrions avoir en tête, c'est la préservation des liens sociaux. C'est ce qui permet aux humains d'être pleinement humains et non pas des individus atomisés comme facteurs économiques tels que le met en avant le système néolibéral. Et ensuite, le niveau politique devient celui du débat entre au sein même des sociétés humaines pour établir un nouveau projet. Je n'ai pas autorité pour imposer un modèle plutôt qu'un autre, et sans doute qu'on peut imaginer dans un monde nouveau des systèmes sociaux qui fonctionnent plus, de façon plus ou moins distincte, mais à partir du moment où les deux boussoles essentielles sont respectées, à savoir le respect de la communauté biotique et l'intégrité des sociétés. Et enfin, l'économie devient l'économie des besoins, qui reste à définir, mais les besoins essentiels, et non pas des besoins artificiels créés par un système économiste productiviste qui ne vise qu'une croissance artificielle, l'accumulation des biens matériels. Donc on voit qu'on va passer dans ce changement de paradigme d'un monde qui est fait d'une série de dominations successives à un monde qui, au contraire, à partir du moment où on prône le bien-être des sociétés et celui des écosystèmes, a une série d'émancipations emboîtées les unes dans les autres. Et ça rejoint un peu aussi ce que disait Keynes peu avant de mourir dans un livre, un tout petit livre qui est extrêmement explicite, qui s'appelle « Lettre à mes petits-enfants », où il disait « L'économie, il ne faut pas lui donner le volant, il faut la laisser sur la banquette arrière ». Donc quelque chose de très explicite pour celui que l'on peut considérer comme l'un des pères de l'État-providence.
Alors, Michel Magny faisait référence à un changement de paradigme. Est-ce que, Antonio Duarte, vous y souscrivez ?
Évidemment, oui, mais avant d'y répondre complètement, aujourd'hui, on considère qu'il y a 7 courants de pensée dans l'écologie politique. Alors, il y en a 2 qui font partie de l'écologie réformiste. C'est ce qu'on appelle, d'une part, c'est le courant dominant aujourd'hui. On faisait allusion au COP, c'est ce qu'on appelle l'alarmisme réformiste. C'est-à-dire qu'ils essayent de limiter autant que faire se peut le réchauffement climatique, mais sans changer le système économique. C'est de préserver la biodiversité, mais ils savent très bien qu'ils vont perdre probablement la moitié des espèces parce qu'ils ne veulent pas interrompre ou changer le cours des choses, ils veulent juste limiter les dégâts. Ça, c'est vraiment la doctrine, si je puis dire, dominante, qui est celle qui dicte aujourd'hui les COP et la gouvernance mondiale, mais aussi la gouvernance à l'échelle de l'Union européenne. On peut le regretter dans cette doctrine-là. Il y a une deuxième doctrine réformiste, un peu différente, qu'on appelle l'écomodernisme, qui se situe d'ailleurs dans la logique du rapport Meadows dont on parlait tout à l'heure. Il y a un livre américain qui est écrit par notamment un architecte qui s'appelle William McDonough et Michael Bongrant, qui s'appelle Cradle to Cradle, qui parle d'économie circulaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils disent que la planète n'a pas de poubelle. Or, aujourd'hui, on produit beaucoup de déchets, on jette les vêtements dans le désert, n'importe où, on ne sait pas recycler, alors qu'en réalité, il faudrait revoir la conception de nos produits sur le plan industriel pour que l'ensemble puisse être désassemblé et remodelé, recyclé, de manière à ce qu'on ne jette plus rien. Donc ça commence à être intégré par un certain nombre de processus industriels, notamment grâce à des lois qui l'obligent, qu'on appelle la durabilité des produits. Donc là, il y a une piste qui est intéressante, qui rejoint effectivement la philosophie de Kant, quand au XVIIIe siècle, il avait écrit le projet de Perpétuel, où il disait qu'en réalité, même des démons pourraient parvenir à une république paisible s'ils arrivent effectivement à faire fonctionner leur intelligence et l'intelligence humaine. Et donc on est un peu dans cette logique-là qui reste assez optimiste, qui a été prolongée par Martin Heidegger, mais plus récemment des penseurs allemands intéressants comme Hans Jonas ou en France Jacques Ellul qui sont aussi dans cette logique-là. Après, il y a 5 courants de pensée plus radicaux, mais qu'il faut avoir en tête, qui se mélange de plus en plus. Il y a ce qu'on appelle l'alarmisme révolutionnaire. Le plus connu en France, c'est l'ingénieur Jean-Marc Jancovici qui a créé le Shift Project, qui est assez écouté, notamment dans les écoles d'ingénieurs, de commerce, par une jeunesse plutôt cultivée, par le milieu politique également. Il y a aussi Aurélien Barraud, le scientifique qui a écrit Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité il y a quelques années, et qui se dit, voilà, c'est la dernière chance de changer, et il faut vraiment être beaucoup plus radical. Aurélien Barraud, d'ailleurs, considère que on fait aujourd'hui des crimes contre l'avenir. Et donc, ça fait référence, Corinne Lepage notamment appelle les écocides, c'est-à-dire les crimes contre l'environnement, qui sont aujourd'hui peu punis. Et il y a toute une doctrine, et vous voyez bien qu'il y a pas mal d'associations avec l'affaire du siècle, etc., qui va judiciariser effectivement les crimes contre l'environnement pour essayer d'imposer à la classe politique la préservation des ressources pour les générations futures. Il y a une école, mais qui peut avoir, c'est le cas de manière presque ouverte de la part de Jean Covici, qui a un problème avec la démocratie. C'est-à-dire qu'il considère que le système démocratique ne peut pas parvenir rapidement à changer la donne parce qu'il y aura toujours des populistes ou des climato-sceptiques ou des lobbies qui vont freiner ce changement-là. Et par exemple, Jean Covici dit il faut imposer 2 ou 4 trajets par avion par personne et point à la ligne. Et comme ça, on arrivera à respecter l'itinéraire. Donc, il y a un vrai sujet sur... évidemment, on a vu, par exemple, pendant le Covid, c'est plus facile pour un pays dictatorial comme la Chine d'imposer un confinement strict et des règles de changement radicales que dans une société démocratique et capitaliste, évidemment. Donc là, il y a une piste, mais qui, effectivement, peut se discuter. Si on veut être raisonnable, il faut réguler davantage le capitalisme, mais avoir des mesures plus radicales entre les deux.
Oui, alors, je disais, c'était pas ma question. Comment pouvons-nous nous projeter? Mais Michel Magny voulait réagir aussi, donc je laisse réagir Michel Magny, et ensuite, je vous repasse la parole, Antonio Duarte.
Oui, je pense que dans tout ce que nous entendons, il s'agit principalement de l'histoire de la pensée occidentale. Mais de mon point de vue, on aurait beaucoup à apprendre aussi de ceux que l'on appelle les peuples autochtones. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de revenir à l'âge de la pierre, et trop souvent il y a une confusion à leur égard, en particulier si on prend les thèses de l'anthropologue américain Lewis Morgan, qui considérait que les peuples qui vivaient technologiquement à l'âge de pierre étaient des peuples en retard. Et en fait, l'analyse critique faite par Alain Testard dans son livre « Avant l'histoire » paraît beaucoup plus intéressante, où il propose un arbre généalogique des façons différentes d'habiter la Terre. Et en fait, ces peuples autochtones nous montrent aujourd'hui non pas des peuples qui sont en retard sur la civilisation industrielle et technologique qui est la nôtre, mais des peuples qui ont choisi délibérément de ne pas favoriser le développement technologique au profit du bien-être et du développement social. Et je pense qu'il y a fort à s'inspirer de ces peuples qui, aujourd'hui, défendent de façon assez difficile, qui sont dans des positions assez délicates, pour subsister, alors qu'ils ont choisi, encore une fois, c'est un véritable choix, d'habiter la Terre différemment, par rapport à la façon que nous avons d'occuper cette planète Terre. Voilà.
C'est vrai, et pour rebondir là-dessus, on n'a pas cité de courants plutôt orientaux, mais sur l'écologie, effectivement, ont toute leur place. C'est le taoïsme qui est assez présent, évidemment, en Chine, qui est à la fois une philosophie des sciences et une philosophie de vie, équilibre masculin-féminin, mais l'équilibre vide-plein, et qui montre l'interdépendance, en réalité, des deux, qui est pas si éloignée que ça d'une certaine philosophie maçonnique aussi, à laquelle on peut faire référence, qui est intéressant. La philosophie bouddhiste a un rapport aussi avec le bonheur, l'épanouissement, la maîtrise de soi, le respect de la nature et des animaux, qui est beaucoup plus ancré dans son imaginaire. Et en Occident, on n'a pas cité un courant qui refait surface, qui était complètement marginalisé au sein du christianisme en particulier, bon, qui sont les références évidemment à saint Antoine de Padoue, qui reviennent un petit peu en force avec effectivement le Laudato Si du pape François, qui a réformé, si je puis dire, la pensée, le dogme de l'Église catholique, pour la rendre vraiment plus écologique. Et il y a vraiment, ça inspire aussi un certain nombre d'entrepreneurs chrétiens plus largement, et ça va plutôt dans le bon sens.
Dans l'imagerie d'Épinal, on a plutôt tendance à penser que les jeunes générations se sentiraient plus concernées que les boomers, on va dire. Est-ce, selon vous, surfait? Est-ce réel? Avez-vous des données scientifiques sur ce sujet? Quel est votre a priori politique? Rapidement, puisque nous arrivons à la fin de l'émission, Michel Magny.
En tant que scientifique travaillant sur les écosystèmes terrestres, et les interactions dans la longue durée entre ces écosystèmes et l'histoire des sociétés, je n'ai pas autorité à m'exprimer sur ce sujet. Donc je passe la parole volontiers.
Alors je reprends la parole, mais on est entre boomers, entre guillemets, donc effectivement, je pense qu'on n'est pas les plus concernés. Il y a une dichotomie sur le sujet. Clairement, il y a une, on faisait allusion tout à l'heure à l'éco-anxiété qui désigne effectivement cette préoccupation très forte chez une partie des jeunes générations, mais en même temps, on voit une plus forte abstention chez les jeunes qui ne vont pas forcément aller voter pour changer la donne et changer les choses. Et ils votent pas beaucoup plus, d'ailleurs, pour l'écologie politique. Vous voyez, par exemple, sur les européennes, ils votent 1% de plus que la population pour des écologistes. Donc, ça reste marginal parce qu'ils ont aussi d'autres préoccupations sociétales, de pouvoir d'achat, de sécurité, etc. Et donc, en réalité, l'offre politique aujourd'hui ne les incite pas à aller voter. Ils ont tendance à être un peu fatalistes, c'est à se dire que de toute façon, d'une part, il y a une défiance vis-à-vis de la classe politique, ça c'est un autre sujet, et que de toute façon, effectivement, ils vont pas changer la donne parce que c'est pas dans l'intérêt des boomers, entre guillemets, c'est à cause d'eux que on est dans cette situation, ce qui est pas totalement infondé, même s'il y a eu des vrais changements depuis une cinquantaine d'années qui s'accélèrent. Mais aujourd'hui, on commence à voir aussi quand même une prise de conscience chez les parents, chez les grands-parents, de cette préoccupation des jeunes. Donc je pense que le clivage est moins prononcé que ce qu'on veut bien dire.
Michel Magny, pour conclure, je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que la solution ne passerait pas par l'éducation? L'éducation scientifique expliquée, est-ce que vous considérez que, par exemple, en France, ce qui est fait est suffisant? Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Est-ce qu'il y a de bons exemples à qui faudrait suivre, Michel Magny? Et puis je vous poserai la question, Antonio Duarte.
Pour rester à un niveau tout à fait général, effectivement, la question de l'éducation est extrêmement importante parce que à quoi nous sommes appelés, c'est un changement complet d'imaginaire, c'est une véritable révolution culturelle. Quand je parlais de changement de paradigme, passer de l'économique à la préservation des écosystèmes et de la société, c'est un véritable changement culturel, une autre façon de penser. Et naturellement, il faut déjà que chacun soit bien conscient, soit bien informé de la situation dans laquelle nous nous trouvons à l'échelle planétaire, mais aussi à l'échelle locale. Et bien sûr que les jeunes générations qui sont complètement engagées dans les processus en cours, qui vont les vivre plus longtemps que les boomers, que nous pouvons être, bien sûr que c'est extrêmement important qu'elles soient éduquées. Mais je dirais aussi que le paradoxe aujourd'hui, c'est peut-être de voir des élites politiques et économiques qui ont les leviers en main et qui ne sont pas suffisamment informées, pas suffisamment éduquées par rapport aux problèmes concernant l'état actuel de la planète, voire même aussi de l'état des sociétés. Voilà.
Et rapidement, Antonio Duarte.
Il faut garder en tête que 70% des possibilités de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont sur des décisions collectives, donc politiques d'une certaine manière. 30% concernent les décisions individuelles, qui ne sont pas négligeables. Donc sur ce deuxième point, ça passe d'abord évidemment par une philosophie de vie personnelle. Et passer d'une société de progrès à une société peut-être du bonheur, où on change notre système de valeurs et notre hiérarchie des priorités, pour un épanouissement, un bonheur personnel, une harmonie avec son environnement, avec ses proches. Je crois que c'est essentiel dans ce sens-là. Mais il va falloir, et je crois qu'on n'a pas encore les outils intellectuels pour cela, changer l'économie politique, c'est-à-dire effectivement trouver un système de vie en commun qui permette de se substituer au capitalisme, au néolibéralisme actuel, dont on voit bien les limites et qu'on peut essayer de réguler, de freiner, de réglementer autant qu'on veut, et gardera toujours ses défauts majeurs qui ne permettent pas de répondre durablement à la situation. Donc il faut vraiment accentuer cette réflexion collective. Je pense qu'il y a des solutions, il peut y avoir des solutions politiques aussi qui demandent beaucoup de courage politique, qui demandent des financements, mais qui existent en réalité. Et ces changements peuvent arriver beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Dans la diffusion des connaissances dans les espèces animales, etc. On voit bien qu'au début, c'est extrêmement minoritaire, et puis du jour au lendemain, ça peut basculer de manière majoritaire. Donc ce changement, il dépend de chacun de nous, il dépend aussi de notre engagement dans la société pour faire changer les choses à notre niveau, dans notre métier, dans nos spécialités, dans nos différentes communautés. Je crois qu'il faut rester optimiste. La prise de conscience se poursuit, on est là pour y contribuer, et pour avancer.
Eh bien, merci à vous pour ce débat sur nature et société et quels enjeux. Il n'était pas question que de la relation de l'homme à la nature. On est allé beaucoup plus loin. On pourrait continuer encore longtemps. Malheureusement, cette émission ne dure qu'une heure. Merci Michel Mani d'avoir accepté d'y participer. Merci Antonio Duarte. Merci Gilles Soulière qui réalise et produit cette émission pour Radio Delta. Et nous nous quittons avec Raphaël, l'année la plus chaude de tous les temps. À dimanche prochain.
Le décor sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison, les volets claquent vers la mer, le ciel est bleu pourtant. Tu regardes vers le nord, avis de grand frais à la fenêtre, mer 5 à 7, forcissant dans ta tête, des crêtes d'écume au plafond, un orage dans le salon, dans la salle de bain du bar, détends-toi. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'anticyclone des Açores est sur nous. La main de Dieu est sur nous, les comètes géantes arrivent, le canapé dérive. Dans les muséums d'histoire naturelle, les os des dinosaures tremblent, les planètes s'entrechoquent. Et tu n'as encore rien vu, et tu n'as encore rien vu. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. Cordes sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison, les volets claquent vers la mer. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps.